Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée, présentée par Alexis Lacroix, Fabrice Millon. Et nous avons, chers auditeurs, chères auditrices, le plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin avec un invité de marque, s'il en est, Stéphane Rosès. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alexis.
Vous êtes politologue, vous êtes écrivain, ancien directeur général de l'Institut CSA, auteur de nombreuses études, également politiques, et vous avez signé récemment, avec un autre politologue, Arnaud Benedetti, un livre d'entretien, essai sur l'imaginaire des peuples, intitulé « Chaos ». C'est un livre qui a eu d'ailleurs un grand succès et qui a remporté beaucoup de critiques, beaucoup d'audience aux éditions du CERF. Alors justement, on en fait le fil rouge de notre réflexion d'aujourd'hui. Nous sommes dans un moment de la vie publique à l'échelle de l'Europe où on sent qu'il y a une sorte de polarisation, une polarisation entre les blocs gouvernementaux et les populistes. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Ça va être un petit peu les questions que nous allons nous poser à partir de votre essai « Chaos », essai sur les imaginaires des peuples. Alors c'est moi qui je vais commencer par une citation extraite justement de cet essai, Stéphane Rosès. « L'Union européenne, écrivez-vous, devenue néolibérale et refusée par une majorité de Français lors du référendum en 2005, nous empêche de nous projeter dans l'espace. » C'est ce que vous écrivez, hein. Et vous ajoutez « Cela nous empêche de voir l'Europe comme une France en grand, susceptible de peser sur la mondialisation. Nous avons plutôt tendance à voir l'Union européenne comme un cheval de Troie de la globalisation néolibérale. Est-ce qu'il faut repartir de ces perceptions, de ces représentations, qui ont évidemment leur importance dans les affaires publiques, pour comprendre, disons, les dangers qui menacent aujourd'hui les républiques démocratiques, eu égard à cette question de l'Europe ?»
Oui, absolument. Si la France est le pays le plus pessimiste au monde, il doit y avoir un ou deux pays très défavorisés dans cette situation, c'est parce que, au fond, c'est sans doute l'imaginaire français qui est fondé sur l'idée de construire sans cesse notre avenir au travers de disputes politiques communes, qui est le plus contrarié par les modalités de fonctionnement de l'Union européenne. En un mot, les Français cherchent la vision pour s'assembler dans leur diversité, et donc il y faut des débats politiques. Or, l'Union européenne dit au peuple européen qu'il faut essentiellement respecter des normes et disciplines économiques.
Et un certain nombre de procédures économiques. Alors, c'est ce que vous analysez, d'ailleurs, dans Chaos avec Arnaud Benedetti, c'est très intéressant. C'est, on va dire, le virage, parce que l'idée européenne n'est pas indissolublement liée au néolibéralisme, absolument pas. Mais à partir d'un certain moment, on va dire que les grandes orientations sont plutôt du côté du triomphe de l'idée néolibérale. Et donc, effectivement, pour beaucoup dans les représentations, mais il faut partir des représentations pour comprendre les problèmes et les crises, pour beaucoup de Français, effectivement, il y a une association qui se fait aujourd'hui entre l'idéal européen et le néolibéralisme.
Oui, le néolibéralisme, soyons clairs, je dois l'être. Le néolibéralisme, c'est une forme de gouvernance politique. Ce n'est pas l'ultralibéralisme qui, lui, est un rapport social, capital, travail, à l'intérieur du libéralisme.
Alors on peut d'ailleurs, pour camper le décor de ce que vous êtes en train d'expliquer, Stéphane Rosès, à partir de Chaos, votre essai événement aux éditions du CERF, on peut le dire, le néolibéralisme, c'est très proche du gouvernement par le nombre, du gouvernement par le chiffre qu'a décrit l'anthropologue Alain Supiot.
Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est l'idée que l'on trouve, par exemple, chez Saint-Simon, l'utopiste du 19e, passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Cette idée néolibérale, elle est commune à la droite et à la gauche. et puisque nous sommes beaucoup entre frères, elle trouve sa racine à l'intérieur même des Lumières. Il y a deux courants, Montesquieu, pour qui la loi doit s'adapter aux us et coutumes des peuples, et arrive ensuite Condorcet, le mathématicien, le grand philosophe. Et Condorcet dit, mais non, la loi doit s'appliquer à la vérité, et la vérité est une. La loi ne doit pas dépendre des us et coutumes des peuples, et ça, c'est selon moi, à l'intérieur des Lumières, l'origine théorique, philosophique du néolibéralisme.
On peut dire qu'il y a donc pour vous une bifurcation en quelque sorte entre deux voies à partir des Lumières, celle que Montesquieu a incarnée, vous
oui,
le rappelez,
le
libéralisme politique au fond,
voilà.
Et Condorcet serait plutôt celui qui, évidemment sans le penser, mais a pavé la voie à une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, de gouvernementalité par les chiffres.
Oui, si la loi peut s'appliquer partout dans le monde parce que la vérité est une, la raison et une, alors les sociétés peuvent avancer par le haut, par des procédures juridiques, économiques, par la technologie, les marchés. Or, toute la thèse de mon livre, c'est de dire, si le chaos menace, c'est que la globalisation économique, financière, numérique sort des gonds des imaginaires des peuples, de la mondialisation.
Alors voilà, donc effectivement, on est au cœur de la thèse de votre livre, que vous avez eu l'occasion de décliner hein, plusieurs fois depuis sa parution, Chaos, aux éditions du CERF avec Arnaud Benedetti. C'est très intéressant. Cela veut dire, à contrario, qu'on ne peut véritablement lutter contre le phénomène populiste, que ce soit un populisme xénophobe ou pas xénophobe d'ailleurs, hein, on ne peut véritablement lutter que si l'on part de ce que vous dites, c'est-à-dire le sentiment de mise en péril de l'imaginaire des peuples par la globalisation telle qu'elle se déroule et qu'elle se déploie aujourd'hui.
Oui, absolument.
Et la meilleure réponse politique, métapolitique, au populisme doit faire fond sur cette conscience de la menace perçue.
Oui, absolument. Au fond, si les peuples se replient, s'ils se fragmentent, et si pour sortir de cette fragmentation, ils désignent des boucs émissaires, s'il y a des passions tristes, si les peuples sont amenés à se regarder en chien de faïence, puis à s'affronter, c'est parce que, en réaction de ce sentiment de dépossession, les peuples régressent aux formes les plus archaïques de leurs imaginaires. Et donc, il faut remettre les gouvernances en cohérence avec ce que sont les peuples dans leurs us et coutumes.
Alors, est-ce qu'on peut dire que votre livre est un appel au sursaut du volontarisme politique contre toutes les formes de nihilisme politique et notamment d'obscurantisme hein, incarné par les populismes ?
Absolument. Mon livre, à la fin, avance des solutions. Il s'agit toujours de revenir aux fondamentaux du libéralisme politique que sont la souveraineté nationale, la souveraineté populaire pour préserver les démocraties libérales. Et ce qui m'inquiète dans l'Union européenne, qui est au fond le laboratoire le plus poussé du néolibéralisme, c'est qu'on le voit, dorénavant, les peuples se regardent en chien de faïence. Regardez la relation franco-allemande qui était au départ au cœur de l'Europe des fondateurs. Regardez, au fond, les sentiments de péril culturel vécus par les populations. Et donc, évidemment, ce sont les formations de droite ou à droite de la droite, voire en mutation venant d'extrême droite, comme Meloni en Italie ou Marine Le Pen, qui peu à peu récupère ses replis et inquiétudes des nations européennes.
Alors il y a toutes les raisons que vous expliquez et liées à cette philosophie de l'imaginaire que vous appelez de vos voeux justement pour répondre au phénomène populiste. Il y a probablement aussi dans le phénomène populiste une sorte d'oubli, d'abandon des idéaux de l'universalisme européen. Comment, d'après vous, sur la base de l'analyse sociologique, anthropologique que vous déployez dans Chaos, Stéphane Rosès, peut-on répondre à ce phénomène en faisant à nouveau aimer, pardonnez-moi l'expression naïve, cet universalisme européen?
L'universalisme européen procède depuis Mare Nostrum, au fond de la singularité du génie européen, qui est de faire coexister dans un espace géographique restreint une myriade de peuples avec chacun des imaginaires différents.
D'ailleurs, le projet européen, au départ, on peut dire qu'il était parfaitement, il articulait parfaitement la recherche d'une unité civilisationnelle avec la prise en compte de la pluralité des nations et des cultures.
Absolument. Au fond, l'universalisme occidental et européen, c'est la bonne articulation entre le singulier et la projection vers l'universel. Là où nos amis américains ont un universalisme plutôt messianique et plutôt, je dirais, oublieux des singularités des peuples, alors que c'est notre histoire à nous en Europe.
Alors c'est très intéressant parce que récemment il y a eu des initiatives qui ont été prises par un certain nombre de loges, dont le Grand Orient, avec d'autres loges de pays européens pour lutter contre les populismes xénophobes. On a le sentiment aussi, si on analyse les choses de manière anthropologique, comme nous voulons le faire ce matin avec vous sur France Culture, Stéphane Rosès, que tous les peuples européens ne sont pas percutés de la même manière par l'imaginaire de la globalisation. Il y en a certains qui s'y adaptent davantage et d'autres qui sont plus réticents, qui sont plus dans une forme de rejet systématique des promesses ou des périls liés à cette globalisation.
Oui, vous avez raison, Alexis, avec des paradoxes apparents. Les Français et les Italiens ont toujours été les plus pro-européens. J'ai beaucoup travaillé dans le passé pour la Commission européenne, 3 présidents de la République, dont 2 lors d'événements importants au plan européen. Les Français sont, avec les Italiens, les plus projectifs pro-européens. Mais depuis le traité constitutionnel européen, les Français sont plutôt dorénavant vers Montesquieu et De Gaulle. Ils voient plutôt l'Europe comme une Europe des nations plutôt qu'une Europe, je dirais, néolibérale. Alors l'Allemagne, elle, a été beaucoup plus, du fait de son imaginaire, en phase avec ce qui est devenu l'Europe après la chute du mur de Berlin lors des grandes négociations Mitterrand-Kohl. Donc, pour les Allemands, le respect de la discipline économique et juridique est venu dès 1945 en substitut du respect du militarisme, du nationalisme et de l'horreur nazie. Donc, la France, les pays latins, ce sont vraiment des constructions politiques. C'est la phrase de René Char, le grand poète, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Alors, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, ce n'est pas le passé qui fait la France, c'est la construction de l'avenir, mais il y faut la souveraineté nationale.
Alors justement, cette nation civique que vous exaltez, elle peut, selon vous, aujourd'hui, retrouver force et vigueur, avec notamment d'ailleurs l'appui et l'aide des loges maçonniques, à condition de résister à ce que vous appelez dans Chaos, votre livre sur lequel cette conversation ce matin avec vous, Stéphane Rosès, prend sens. à condition de résister à ce que vous appelez la naturalisation des marchés financiers. Si on ne résiste pas à cette naturalisation des marchés financiers, il n'y a aucun moyen de renouer avec le fil, j'allais dire, de l'ambition politique.
Absolument. C'est pas seulement de ma part une question morale ou de citoyenneté ou de civisme républicain. Je suis un réaliste dans la lignée de ce grand auteur que vous avez excellemment réactualisé, Raymond Aron. Je suis ni pas un universitaire ni un chercheur.
Alors je vous pose une question, je ne l'avais pas prévue, vous voyez, oui. Mais c'est les joies du direct. Stéphane, oui. Rosès, nous sommes ensemble, nous parlons de Chaos, votre livre événement, avec Arnaud Benedetti au CERF. Qu'est-ce qu'il dirait justement de cette difficulté à aujourd'hui à articuler les imaginaires de souveraineté nationale avec les imaginaires supranationaux de la construction européenne? Notre ami Raymond Aron, qu'est-ce qu'il dirait d'après vous de cela?
Alors, le danger dans ma parole, c'est de m'approprier Raymond Aron et de le faire venir à moi.
On peut être sûr qu'en revanche, il serait alerté par la montée des populismes.
Il serait alerté. Par exemple, dans votre livre, vous rappelez que très vite, il a compris qu'il fallait aller vers l'indépendance de l'Algérie. Il s'était mis à dos beaucoup de ses amis, soit de droite, soit du Figaro. Donc il sait bien, comme le général de Gaulle le disait, que l'Italie c'est Dante, l'Allemagne c'est Goethe, la France c'est Hugo, c'est Cervantes en Italie, Shakespeare en Angleterre, ou Grotius en Hollande. Il savait bien, Raymond Aron, que les peuples avaient des singularités culturelles. Pour autant, il était ouvert sur le monde, c'était un universaliste.
Le dernier mot sera donc, cher Stéphane Rosès, à l'universalisme. Vous en êtes porteur aussi. Voilà. Chaos aux éditions du CERF. C'était l'émission du Grand Orient de France. Merci à vous,
merci,
cher Stéphane.
Merci.
Un très bon dimanche à tous, à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Et un grand merci évidemment à la technique, à Jean-Guy Lamège, à la réalisation, à notre ami Luc-Jean Reynaud, l'indispensable Luc-Jean Reynaud, ainsi qu'à la coordination éditoriale, la non moins indispensable Claire Poinsignon.